Vous écoutez On lit pour vous.
Injustice épistémique et violence conjugale. Une analyse des expériences des femmes immigrantes au Québec. Un article de Sabrine Zamoum, paru le 18 mars 2026 dans les Cahiers Anne Hébert. Cet article cherche à comprendre les réalités vécues par les femmes immigrantes victimes de violences conjugales au Québec. En plus des différents facteurs et des défis socio-judiciaires en lien avec leur genre, leur origine nationale et leur statut migratoire, il importe de souligner l'effet négatif des injustices épistémiques sur les expériences de ces femmes immigrantes. Ces injustices épistémiques contribuent à renforcer leur marginalisation et leur vulnérabilité et à les empêcher de dénoncer cette violence. Au Québec, la violence conjugale touche de nombreuses personnes, dont les femmes principalement. En 2023, plus de 27 000 personnes ont été victimes d'infractions contre la personne en contexte conjugal, dont 20 590 femmes et 6 492 hommes, Institut de la statistique du Québec 2025. Entre 2005 et 2023, le nombre de victimes a augmenté significativement chez les femmes et chez les hommes et, bien que la hausse soit plus marquée chez les hommes, 125 % contre 41 % les femmes restent les plus affectées, Institut de la statistique du Québec 2025. La violence conjugale a été définie par le gouvernement du Québec, 1995, comme des agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles, ainsi que des actes de domination sur le plan économique. Il est en outre précisé que la violence ne résulte pas d'une perte de contrôle, mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour dominer l'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extra-conjugale ou amoureuse, à tous les âges de la vie. Cette définition, adoptée à partir d'une perspective féministe radicale, a été établie, après sa reconnaissance, comme une infraction punissable par la loi en 1986, au même titre que toute autre violence commise dans la sphère publique. Elle est alors devenue un enjeu socio-judiciaire. Par conséquent, une politique sociale sur la violence conjugale a été mise en place par le gouvernement du Québec en 1995, qui est toujours en vigueur à ce jour. En plus des effets du système patriarcal, la situation devient plus complexe lorsqu'il s'agit de femmes issues de groupes minoritaires comme les femmes immigrantes, qui risquent davantage de rencontrer des difficultés reliées particulièrement au racisme, à la religion, à la structure familiale, à la langue ou au statut légal d'immigration. Les données statistiques récentes des maisons d'hébergement montre que les femmes immigrantes sont particulièrement touchées par la violence conjugale. Par exemple, au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, la proportion des immigrantes accueillies est passée de 13 % en 2019-2020 à 19 % en 2022-2023 et dans ces 46 établissements, les femmes immigrantes représentaient 69 % des femmes dans la région de Montréal et 51 % à Laval. Dans la région de la capitale nationale, elles étaient 27 %, ce qui dépasse donc largement la proportion d'immigrants de 6,7% dans la population générale. En 2023, elles ont représenté les trois quarts des femmes hébergées dans les maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales à Montréal, et le tiers de celles hors métropole. En moyenne, dans leurs 18 maisons présentement en fonction sur tout le territoire, c'était près de la moitié des femmes hébergées qui étaient nées à l'extérieur du Canada. Par conséquent, ce phénomène est en augmentation et les femmes immigrantes représentent la moitié des victimes au Québec et la majorité à Montréal. Ces statistiques ne sont pas précises, car plusieurs femmes, notamment les immigrantes, hésitent à dénoncer la violence qu'elles subissent à cause de certaines pratiques sociales et religieuses qui favorisent la domination masculine, l'inacceptation de divorce et de la séparation dans plusieurs cultures. Nous proposons ici une analyse exhaustive des facteurs qui favorisent la violence conjugale chez les femmes dans un contexte migratoire au Québec. Ces facteurs sont des normes institutionnelles ou sociales qui interagissent et rendent ces femmes plus vulnérables et susceptibles de se trouver effectivement dans des positions et des conditions qui affaiblissent leur capacité d'agir. Plusieurs auteurs et autrices, dans la littérature existante, mobilisent des analyses intersectionnelles afin de traiter ces normes institutionnelles et sociales. L'analyse intersectionnelle nous permet de comprendre qu'en plus du sexisme provenant du patriarcat, les femmes immigrantes sont susceptibles d'être confrontées à d'autres oppressions qui s'additionnent et s'entrecroisent. Celles-ci sont souvent liées à leur statut socio-économique ou migratoire. Cependant, ces facteurs renforcent les méthodes de contrôle des partenaires violents. Ils restreignent la possibilité d'une intervention rapide et la capacité des femmes à quitter la relation violente. Le patriarcat est considéré comme un facteur principal dans la définition de la violence conjugale par le gouvernement du Québec, 1995. Dans certaines sociétés, la domination masculine est légitimée par des normes culturelles et la femme doit assumer les responsabilités domestiques et celles de préserver l'unité familiale. Cela explique pourquoi, selon Sandra Heidemann, la violence conjugale est banalisée ou n'est pas reconnue comme étant un problème social, ce qui peut rendre l'identification de la violence et la dénonciation plus problématique. La violence conjugale peut même être normalisée par les femmes. Une participante de cette étude affirme d'ailleurs que la violence des hommes, c'est une affaire normale. Ces perceptions, notamment la normalisation de la violence conjugale, renforce leur vulnérabilité. Or, la culture patriarcale n'est pas la seule explication de la vulnérabilité des femmes immigrantes, comme le mentionne Sastal Castro-Zavala. Le statut migratoire joue également un rôle important dans l'exacerbation des vulnérabilités et dans la réduction des droits des femmes sur le territoire et leur éligibilité aux différents programmes et services, notamment dans le cas des femmes parrainées et réfugiées. Bien que le statut migratoire conditionnel ait été aboli en 2017, selon le Conseil canadien pour les réfugiés, 2019, le problème actuel réside dans les fausses déclarations reçues par le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, IRCC, de la part des conjoints parrains pour manipuler les victimes. en raison de ces fausses déclarations, l'IRCC déclenche des enquêtes sans prendre en considération l'hypothèse de violence conjugale. Par conséquent, ce statut renforce la dépendance sociale et économique de ces femmes à l'égard de leur conjoint. Cette dépendance économique ne découle pas uniquement du statut migratoire, mais également d'un autre facteur, les inégalités économiques et professionnelles qui touchent même les immigrantes économiques au Québec, notamment par la discrimination et la non-reconnaissance de leurs diplômes et de leur expérience de travail obtenue à l'étranger, ce qui explique leur surprésentation dans les secteurs moins rémunérés avec un taux de chômage plus élevé. Vous écoutez « Injustice épistémique et violence conjugale, une analyse des expériences des femmes immigrantes au Québec », un article de Sabrine Zamoum, paru le 18 mars 2026 dans les Cahiers Anne Hébert. Le système socio-judiciaire augmente à son tour la vulnérabilité des femmes victimes de violences conjugales par sa complexité, ses procédures prolongées, dont la durée peut s'étendre sur plusieurs années, la lourdeur des processus judiciaires, la multiplicité des tribunaux judiciaires à consulter et les coûts élevés des services. De plus, selon Charlotte Gagnon, les expériences de violence conjugale et les récits des femmes victimes sont souvent remis en question, et la crédibilité des femmes est minée par les différents intervenants du système socio-judiciaire, surtout dans le cas de celles en situation de précarité économique. Dans le même ordre d'idées, Gagnon et ses collègues soulignent les difficultés liées à la reconnaissance de la violence conjugale par les acteurs du système socio-judiciaire, ainsi que la banalisation de la violence dans de nombreux cas, en particulier lorsqu'il s'agit de contrôle coercitif. La situation des femmes immigrantes est plus complexe avec ces conditions, comme le mentionnent Gagnon et ses collègues dans leur travail sur l'expérience de mères victimes de violences conjugales au sein du système socio-judiciaire. Si nombre de femmes victimes de violences sont assujetties à ces conséquences, ellipse, les femmes issues de l'immigration parviennent encore plus difficilement à accéder à des services juridiques en raison des barrières économiques, linguistiques et physiques supplémentaires auxquelles elles sont confrontées. Les facteurs structurels de vulnérabilité abordés jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils entraînent, explicitement ou implicitement, d'autres défis concrets et individuels vécus par les femmes victimes de violences conjugales, tels que l'isolement social et économique, ce qui exacerbe leur situation. Cet isolement peut favoriser le contrôle émotionnel, économique et légal des hommes sur elles, augmentant du même coup le risque de différentes formes de violence. Le contrôle social et économique peut être également renforcé par un autre défi, les barrières linguistiques et la méconnaissance des droits. Les femmes immigrantes, qui ne maîtrisent pas la langue officielle du Québec, rencontrent des difficultés de communication avec les intervenants et les intervenantes, ainsi que des obstacles dans leur capacité à exprimer leur expérience de violence et à percevoir ou à comprendre cette violence. La méconnaissance des droits et des lois canadiennes et québécoises, ainsi que le manque d'informations sur les services offerts et les programmes d'aide, peuvent aussi entraver leur accès au système judiciaire. En outre, cette méconnaissance peut engendrer des craintes si elles dénoncent et signalent la violence qu'elles subissent, comme celle d'être expulsées vers leur pays d'origine ou séparées de leurs enfants. Ces défis, vécus par ces femmes victimes, sont directement reliés aux facteurs structurels, tels que les normes patriarcales, le statut migratoire, de même que les inégalités économiques créant un cercle vicieux et aggravant leur vulnérabilité à la violence conjugale. Par exemple, le statut migratoire, accompagné de la méconnaissance des droits et des lois, entraîne la crainte d'expulsion. Les inégalités économiques et professionnelles entraînent l'isolement social et la dépendance économique. Ces obstacles ne se limitent pas aux dimensions sociales, économiques ou institutionnelles. L'analyse des facteurs et des défis en lien avec la violence conjugale a révélé une nouvelle dimension épistémique, moins visible et souvent ignorée, qui contribue également à accroître la vulnérabilité des femmes victimes, l'injustice épistémique. Celle-ci affecte les expériences de violence vécues par les femmes immigrantes et renforce les obstacles rencontrés pour être écoutées et crues lorsqu'elles choisissent de partager leur vécu et de se faire entendre dans le contexte de la violence conjugale. Une analyse critique des travaux scientifiques portant sur la violence conjugale envers les femmes immigrantes au Québec a été déployée pour comprendre ces obstacles épistémiques. L'analyse s'appuie sur la théorie de l'injustice épistémique introduite par Miranda Fricker en 2007. Forme d'injustice oppressante, occultée et difficile à comprendre par les personnes qui la subissent, l'injustice épistémique est définie par Fricker comme un tort fait à quelqu'un spécifiquement en tant que porteur de savoir, ce qui produit des inégalités entre les individus de la société. Dans son livre « Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing », Fricker distingue deux formes importantes d'injustice épistémique, l'injustice testimoniale et l'injustice herméneutique. La première se produit si et seulement si une personne reçoit un déficit de crédibilité en raison d'un préjugé identitaire. Autrement dit, l'injustice testimoniale se manifeste lorsque la crédibilité d'une personne est niée, non pas en raison de la qualité de ses témoignages, de ses connaissances ou de ses savoirs, mais à cause de préjugés liés à son identité sociale. Ces aspects identitaires, comme le sexe, l'origine ethnique ou la classe sociale, produisent des stéréotypes et des préjugés nourris et maintenus par les groupes dominants dans la société. En ce qui concerne l'injustice herméneutique, elle se produit lorsqu'une personne manque des ressources conceptuelles nécessaires pour comprendre et expliquer certaines expériences sociales vécues parce que la société ne les lui offre pas. Comme l'a défini Fricker, l'injustice herméneutique est une forme d'injustice qui apparaît quand une partie significative de l'expérience sociale d'un individu échappe à la compréhension collective en raison d'un préjugé identitaire structurel dans la ressource herméneutique collective. Ainsi, cette personne est victime d'injustice herméneutique non pas seulement en raison de l'absence d'outils conceptuels dans la société, mais également parce qu'elle est empêchée de créer de nouveaux concepts pour décrire ce qu'elle vit et que Fricker nomme une marginalisation herméneutique. Les ressources conceptuelles se traduisent par les mots, les termes, le langage, les connaissances, les concepts dont les personnes ont besoin pour exprimer leurs expériences. Le manque de ces ressources complique leur oppression et la rend plus difficile. Ce cadre théorique permet de mieux comprendre les marginalisations ainsi que les rapports de force auxquels sont confrontées les femmes immigrantes dans le contexte de la violence conjugale lorsqu'il s'agit d'expliquer quelques expériences vécues par ces femmes. Ces expériences sont reliées à leur capacité de comprendre leur propre vécu et aux obstacles qu'elles affrontent lorsqu'elles décident de chercher de l'aide et de partager leurs expériences. Mais elles sont alors perçues comme moins crédibles. Vous écoutez « Injustice épistémique et violence conjugale », une analyse des expériences des femmes immigrantes au Québec, un article de Sabrine Zamoum, paru le 18 mars 2026 dans « Les cahiers Anne Hébert ». Analyse des facteurs et des défis de vulnérabilité en termes d'injustice épistémique. Le premier facteur analysé est le patriarcat, qui se traduit par la normalisation de la violence conjugale chez les immigrantes, par l'imaginaire social, qui est lié directement au bassin des ressources herméneutiques d'une société. Dans le cas des immigrantes, l'imaginaire social hérité de leur société d'origine crée des mythes et de fausses idées pour banaliser certains comportements violents envers les femmes et les rendre naturels aux yeux de la société et des victimes. C'est ce qui fait que ces femmes manquent de termes pour comprendre et décrire leur situation. Comme le souligne Catherine Jenkins, ces mythes influencent la manière dont les victimes perçoivent leur propre vécu afin de les empêcher d'identifier certaines situations comme des violences conjugales. Cela illustre parfaitement l'injustice herméneutique, car les victimes n'ont pas accès aux outils conceptuels nécessaires pour comprendre et expliquer leur expérience. En plus des mythes et des fausses perceptions sur la violence conjugale issues de la société d'origine, les immigrantes peuvent rencontrer d'autres obstacles dans la société d'accueil québécoise qui limitent encore leurs ressources conceptuelles, comme les barrières linguistiques. Celles qui ne parlent pas une des langues officielles ne peuvent accéder à l'information nécessaire pour comprendre la violence vécue. Aussi, celles qui ne connaissent pas les lois et leurs droits au Québec ne peuvent dénoncer cette violence parce que cette méconnaissance les empêche d'accéder aux services d'aide. Par conséquent, les femmes immigrantes subissent des injustices herméneutiques en raison du manque de ressources conceptuelles liées à leur genre, telles que la banalisation de la violence conjugale. Ce manque est renforcé par les barrières linguistiques et par une méconnaissance des règles juridiques liées au statut migratoire. La problématique de la reconnaissance de la violence conjugale ne se limite pas aux victimes. Même les acteurs du système socio-judiciaire banalisent certaines violences conjugales tant qu'ils n'en trouvent pas de traces physiques, comme dans le cas de la violence psychologique et du contrôle coercitif. Par exemple, les participantes à l'étude de Michel Frenette et ses collègues ont témoigné du fait que certains acteurs et certaines actrices judiciaires, notamment parmi les policiers et les policières, semblent banaliser la violence conjugale, car ils et elles ne savent pas la différencier d'une chicane de couple. Ce qui montre l'existence d'une lacune dans les ressources herméneutiques collectives mises en lumière par Fricker. En effet, Fricker explique que l'injustice herméneutique survient lorsque les expériences des membres de groupes dominés ne sont pas pleinement comprises en raison d'un manque d'outils collectifs dans la société pour interpréter et donner sens à ce qu'ils vivent. Ce manque d'outils conceptuels chez les acteurs socio-juridiques pour reconnaître certaines formes de violence conjugale s'explique par l'insuffisance de la formation sur les différentes formes de violence vécues par les femmes. Dans l'étude de Frenette et ses collègues, certaines participantes, notamment des femmes immigrantes et racisées, soulignent l'importance de reconnaître la dynamique de la violence conjugale dans son ensemble, y compris le contrôle coercitif. Ce concept, tel que défini par Patricia Romito et Evan Stark, comprend deux principales catégories de stratégies. 1. La coercition, agression, intimidation, harcèlement, menace, humiliation. Et 2. Le contrôle, isolement, privation, indifférence, exploitation, imposition de règles, utilisation des enfants. Actuellement, seules les infractions commises dans le cadre conjugal sont reconnues comme des crimes. Cependant, depuis 2015, le gouvernement du Royaume-Uni a élargi cette reconnaissance en incluant le contrôle coercitif comme une infraction criminelle. Dans ce cas, la banalisation des violences vécues par les femmes en raison du manque de ressources herméneutiques collectives peut remettre en question leur crédibilité, comme le mentionnent Gagnon et ses collègues. Les acteurs du système judiciaire, Ellipse, ont tendance à remettre en question la crédibilité des victimes dans nombre de circonstances, notamment si une arme n'a pas été utilisée par l'agresseur, si elles entretiennent toujours ou bien ont entretenu une relation avec l'agresseur, si ces dernières n'ont pas de preuves physiques d'agression, notamment des marques de résistance. L'affaiblissement de la crédibilité des femmes, dans ce cas, n'est pas lié aux préjugés identitaires tels que définis par l'injustice testimoniale classique de Fricker, mais est le résultat d'un manque d'outils herméneutiques collectifs, tant chez les femmes victimes que chez les actrices et acteurs du système socio-judiciaire, ce qui empêche l'interprétation de certaines expériences de violence. Par conséquent, cette injustice herméneutique touche toutes les femmes victimes de violences conjugales, y compris les immigrantes. Dans une autre étude, Gagnon souligne que la crédibilité des femmes est souvent diminuée par rapport à celle des hommes par les intervenantes et intervenants du système socio-judiciaire en raison de leur situation sociale et économique, comme la pauvreté, ou encore de leur expérience de violence conjugale, femmes battues. La violence conjugale et les efforts déployés par les femmes pour assurer leur sécurité et la sécurité de leurs enfants sont souvent ignorés comparativement à la stabilité et à la richesse de l'homme violent, ce qui constitue une injustice testimoniale. De plus, étant donné que les femmes immigrantes sont souvent plus vulnérables en raison de l'imbrication de plusieurs obstacles, tels que l'isolement social et économique et les barrières linguistiques, elles sont encore plus susceptibles de vivre cette forme d'injustice. Certaines femmes immigrantes craignent les conséquences possibles d'une dénonciation et hésitent à demander de l'aide ou à s'adresser au système judiciaire. Cette peur est liée à leurs expériences pré-migratoires dans des contextes où la violence conjugale est banalisée, où les hommes sont souvent perçus comme détenant plus de pouvoir et de crédibilité, et où le système juridique est réputé peu protecteur. Alors, Ces femmes décident de ne plus s'exprimer sur ce qu'elles vivent et de passer leurs expériences sous silence, parce qu'elles pensent que leurs déclarations ne seront pas prises au sérieux. C'est ce que Christy Dodson nomme l'étouffement épistémique, smoldering épistémique, lequel se produit quand un agent épistémique prend conscience que le public auquel il s'adresse ignore son agentivité épistémique et qu'il décide alors de ne pas livrer d'autres témoignages. Après avoir exploré les différents facteurs structurels de vulnérabilité des femmes immigrantes victimes de violences conjugales au Québec, telles que les normes patriarcales, la normalisation de la violence conjugale, les inégalités économiques et professionnelles, la complexité du système socio-judiciaire, nous avons constaté que ces facteurs introduisent d'autres défis concrets et individuels. Ces défis, par exemple l'isolement social et économique, les barrières linguistiques, la méconnaissance des droits et des lois québécoises et canadiennes, le manque d'informations sur les services d'aide, ainsi que la crainte de dénoncer la violence, fonctionnent en parallèle avec les facteurs structurels et exacerbent la situation de ces femmes. L'étude a permis d'analyser ces facteurs et défis en lien avec l'injustice épistémique pour mieux comprendre les obstacles qui empêchent les femmes d'appréhender ce qu'elles vivent et d'être crues quand elles en parlent. Les femmes immigrantes font face à plusieurs injustices épistémiques. La première, l'injustice herméneutique, se produit lorsque les femmes immigrantes normalisent la violence conjugale en raison de l'imaginaire social lié à leur société d'origine et imposé par le patriarcat. Ici, les mots et les concepts nécessaires pour reconnaître et nommer la violence font défaut, notamment en ce qui concerne la violence psychologique, la violence économique et le contrôle coercitif. Ce manque de concepts est aggravé par les barrières linguistiques et la méconnaissance des lois et des droits. Dans certains cas, lorsque ces femmes décident de dénoncer la violence conjugale qu'elles subissent et de demander de l'aide, elles sont décrédibilisées par les acteurs et les actrices du système socio-judiciaire. Ici, nous distinguons deux cas. Dans le premier, la crédibilité est affaiblie en raison du manque de formation nécessaire pour reconnaître les différentes formes de violence conjugale qui ne se limitent pas à la violence physique. De plus, les lois actuelles ne reconnaissent pas le contrôle coercitif comme une infraction pénale, ce qui entraîne des lacunes dans les ressources herméneutiques collectives. Dans le deuxième cas, la crédibilité est réduite en raison des préjugés liés au statut social et économique des femmes, ce qui produit une forme d'injustice testimoniale. Dans les deux cas, ces injustices épistémiques ne touchent pas seulement les femmes immigrantes, mais affectent toutes les femmes au Québec. Le travail de Gagnon, utilisé pour illustrer le deuxième cas d'injustice testimoniale, évoque les femmes en général, sans préciser si les femmes immigrantes sont incluses. Mais les résultats peuvent être appliqués à elles en raison de leur statut économique précaire. Finalement, ces injustices épistémiques vécues par les femmes immigrantes ont un impact négatif sur leur capacité à faire reconnaître la violence vécue, à accéder à la justice et à obtenir de l'aide, ce qui accentue leur vulnérabilité et leur isolement. C'était « Injustice épistémique et violence conjugale, une analyse des expériences des femmes immigrantes au Québec », un article de Sabrine Zamoum, paru le 18 mars 2026 dans « Les cahiers à Nébert ».
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 31 août. En 1864, début de l'évacuation confédérée d'Atlanta. Les forces confédérées entament l'évacuation de la ville d'Atlanta, en Géorgie, face à la pression des troupes de l'Union commandées par le général Sherman. Cette retraite ouvre la voie à l'occupation de la ville par les forces nordistes le lendemain. La chute d'Atlanta constitue une victoire majeure pour l'Union, redonnant un élan décisif à la campagne militaire du Nord. Cet événement contribuera également à la réélection du président Lincoln quelques mois plus tard. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 31 août.
Devenu paraplégique au début de sa retraite, Lise Gaudreau a choisi de la vivre pleinement avec ses moyens. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. À 77 ans, Lise Gaudreau est conseillère père bénévole à Mémo Québec depuis 2022. Elle est devenue paraplégique il y a 12 ans à la suite d'une opération à la moelle épinière. Terrassée au départ par sa nouvelle situation, après 4 ans, elle a redressé la tête et a choisi de vivre plutôt que de se laisser aller à son sort. Et quitte à vivre, autant vivre pleinement et au meilleur de ses moyens ses années de retraite. Lise est restée paralysée après une opération à la moelle épinière il y a 12 ans. Elle savait que cette longue et difficile opération pour lui enlever des masses comportait de gros risques. Après 8 heures, ça a dû être difficile pour le chirurgien. « Je suis rentrée à l'hôpital avec une valise en marchant et je suis sortie sur une civière », raconte simplement Lise. Devenir paraplégique au tout début de sa retraite a été très difficile pour Lise. Cela faisait seulement 3 ans qu'elle avait fait construire une maison au Saguenay où elle revenait passer sa retraite près de ses 3 sœurs après une vie active passée à Montréal. Elle n'avait même pas eu le temps de se constituer un nouveau cercle d'amis. Ils étaient tous loin à Montréal. J'ai perdu beaucoup petit à petit. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai d'abord vécu un jour à la fois sans trop le réaliser, se souvient Lise. Se réorganiser. Après 5 ans, elle a vendu sa maison. Elle n'a jamais reconduit sa voiture neuve de 3 mois au moment de l'opération. Elle a réduit ses aspirations de voyage à un périmètre restreint à la province plutôt qu'au monde et a cherché un nouveau logement qui conviendrait mieux à sa nouvelle condition. Elle reconnaît que les recherches n'ont pas été faciles. Au Saguenay, il manque de logements adaptés pour les personnes âgées en situation de handicap. Il y en a beaucoup pour les personnes âgées, mais pas beaucoup pour celles qui ont un handicap, explique Lise, qui se sent concernée par le sujet et aimerait réussir à changer la situation autour de chez elle. Continuer à s'exprimer, à dénoncer les choses. Vieillir ne signifie donc pas pour Lise perdre son envie de s'informer et aussi de s'exprimer pour dénoncer les choses qu'elle vit. Si je suis immobile, je recule. Même un petit pas en avant suffit. C'est si facile de reculer. En fin de semaine dernière, j'étais seule attachée sur la chaise dans l'autobus et je suis tombée quand il est passé sur un trou. Le chauffeur n'a même pas réagi. Je ne suis pas un paquet qu'on transporte, je suis une personne humaine. Je dois trouver un comité des usagers pour en parler. Il faut que je dise les choses. C'est important de parler de ce qui nous arrive pour que ça n'arrive pas aux autres. Raconte Lise, outrée. La conseillère père bénévole s'est engagée auprès de Mémo Québec parce qu'elle aime la façon de faire de l'organisme en termes de défense des droits des personnes en situation de handicap. Lise reconnaît qu'il est difficile de tout changer d'un coup. Elle se souvient avoir vu, dans les années 1950, des chaises avec des roues en bois qu'elle compare maintenant avec les chaises électriques fournies par le gouvernement. On peut avoir un véhicule qui fait 20 km sans avoir besoin d'être rechargé. Et s'il brise, on le répare. C'est beaucoup, reconnaît-elle. Pour elle,
il est important d'essayer de changer les choses un petit bout à la fois. Un tempérament de sauveur. Aînée d'une famille de 7 enfants, la septuagénaire a aidé à élever ses frères et sœurs. Elle dit avoir un tempérament de sauveur. Elle veut aider. Pas pour materner, mais pour donner des trucs, des moyens de s'en sortir sans avoir toujours un préposé à côté. Lise en connaît un rayon, car elle a travaillé à trouver des solutions durant toute sa vie professionnelle. Elle était responsable d'un secteur à la station d'épuration de la ville de Montréal, dans un monde d'hommes. S'il y avait un problème, il fallait qu'elle trouve une solution. Lise a aussi été bénévole dans plusieurs associations. Elle a été notamment aidante pendant une dizaine d'années dans le cadre du programme de respect de la personne et aussi bénévole pour une maison de transition de deuxième étape pour les femmes et enfants victimes de violences familiales quand elle vivait à Montréal. Elle a aussi participé à la fondation d'une fédération regroupant des organismes intervenant dans le domaine du logement en Montérégie. L'objectif était de venir en aide aux personnes vivant en logement social. Lise s'est beaucoup investie dans cette action et l'organisation a vite grossi. De 6 associations, la fédération regroupait 30 associations au moment de son départ, 10 ans plus tard. Une meneuse. Son côté pratique et son sens des responsabilités l'ont maintes fois aidée, notamment pour élever ses 3 enfants après son divorce à l'âge de 45 ans. Elle n'a pas peur de voyager jusqu'à Montréal en transport adapté et de montrer à d'autres personnes à mobilité réduite que c'est possible. C'est d'ailleurs son esprit scientifique qui l'a amenée à vivre sa carrière loin du Saguenay, car son cours de chimie industrielle de l'Institut technologique ne lui permettait pas de décrocher un emploi dans un monde réservé, à l'époque, exclusivement aux hommes. Lise vit aujourd'hui dans une résidence de l'office municipal avec 10 autres personnes à mobilité réduite où des préposés s'occupent de jour et nuit aux besoins. Elle aime l'ambiance familiale qui y règne et l'esprit d'entraide. Avec d'autres, elle a planté des fleurs pour embellir les rochers derrière la bâtisse. Des légumes aussi. L'été, elle sort un poêle au propane pour chanter, niaiser autour du feu avec les autres locataires. Après une soirée comme ça, on se lève tous de bonne humeur, raconte-t-elle gaiement. S'adapter tranquillement à l'âge et à ses capacités. Les années passant, Lise apprend à aller plus lentement au fur et à mesure que ses capacités diminuent. Elle sait qu'elle a vu beaucoup de choses changer dans sa vie et qu'elle doit s'adapter, notamment avec un intestin et une vessie neurogène. De ses implications, elle ne garde que Mémo Québec car elle aime sortir, rencontrer de nouvelles personnes. Elle adore la musique et sort encore souvent dans des festivals, voir des spectacles ou des films. Il faut commencer par vivre sa vie pour montrer aux autres ce qui est possible. Je ris car je suis heureuse. Je suis en paix avec moi-même. Je n'écoute plus la télé. J'ai autre chose à faire. C'est vrai que je sors un peu moins car je suis fatiguée, mais je prends chaque fois le temps de faire le constat de ce qui se passe pour voir ce que je peux faire. Et j'avance comme ça. Conclut Lise, avec un bel appétit pour la vie. C'était, devenue paraplégique au début de sa retraite, Lise Gaudreau a choisi de la vivre pleinement avec ses moyens. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
L'aliment économique qui réduit l'hypertension. Un texte de Mégane Tanguay, paru le 12 juin 2026 dans Coup de pouce. Les légumineuses n'ont rien de nouveau dans l'assiette, mais elles continuent de susciter l'intérêt des chercheurs. Une nouvelle analyse internationale s'est penchée sur leur lien avec la pression artérielle en s'intéressant à des données recueillies pendant plusieurs années et dans différents pays. Ajoutez des légumineuses à vos repas pourrait réduire votre risque d'hypertension. Les haricots, les lentilles et autres légumineuses font régulièrement l'objet d'études en nutrition, notamment pour leur rôle potentiel sur la santé cardiovasculaire. une analyse récente, basée sur plusieurs études observationnelles, s'est intéressée à leur lien avec l'hypertension. Pour y parvenir, les chercheurs ont regroupé les données de plusieurs travaux menés à grande échelle, incluant des participants provenant des différentes régions du monde. L'objectif était d'observer si la consommation de légumineuses pouvait être associée à des variations du risque d'hypertension au fil du temps. Les résultats montrent une tendance. Les personnes qui consomment davantage de légumineuses présentent un risque plus faible de développer de l'hypertension que celles qui en mangent peu. Ce lien est également observé avec certains produits à base de soja, comme le tofu. La quantité consommée semble aussi jouer un rôle. Les analyses suggèrent qu'une consommation plus élevée est associée à une réduction progressive du risque jusqu'à un certain niveau. Dans certaines observations, l'écart entre les groupes les plus faibles et les plus élevés peut atteindre environ 30 %. Ces données doivent toutefois être interprétées avec prudence. Les études analysées sont observationnelles, ce qui signifie qu'elles permettent d'identifier des associations sans établir de lien direct de cause à effet. D'autres facteurs liés au mode de vie peuvent aussi influencer les résultats. Plusieurs éléments peuvent néanmoins expliquer cette relation. Les légumineuses sont riches en fibres, en potassium et en magnésium, des nutriments souvent associés à une meilleure régulation de la pression artérielle. Elles s'inscrivent aussi dans des habitudes alimentaires généralement plus équilibrées. C'était « L'aliment économique qui réduit l'hypertension », un texte de Megan Tanguay, paru le 12 juin 2026, dans Coup de pouce.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 1er septembre. En 1905, l'Alberta et la Saskatchewan deviennent provinces canadiennes. Les territoires de l'Alberta et de la Saskatchewan intègrent officiellement la Confédération canadienne en tant que 8e et 9e province du pays. Cette création répond à la croissance rapide de la population de l'Ouest canadien, alimentée par l'immigration et le développement agricole. Elle s'accompagne de la mise en place de nouvelles institutions provinciales. Ces deux provinces deviendront des piliers économiques majeurs du Canada, notamment grâce à l'agriculture et aux ressources énergétiques. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 1er septembre.
Quelle place donner à nos animaux dans nos vies? Un texte de Catherine Amiot, qui est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Son texte est publié dans Le Devoir du 1er août 2026. En sous-titre, il y a un équilibre à trouver pour le bien-être humain et pour le bien-être animal. Plus de la moitié des ménages canadiens et québécois vivent avec au moins un animal domestique. Cette tendance s'observe dans plusieurs autres pays occidentaux, comme les États-Unis, où 66 % des gens vivent avec au moins un animal domestique, et l'Australie, où ce pourcentage atteint 73 %. Les animaux domestiques sont aussi considérés par une grande majorité de leurs humains comme des membres à part entière de leur famille. Par exemple, dans un sondage mené par le Pew Research Center en 2023, pratiquement tous les propriétaires d'animaux domestiques sondés, soit 97 %, considéraient leur animal domestique comme faisant partie de leur famille. Par ailleurs, la nature même du lien que nous tissons avec nos animaux et la place précise qu'ils occupent dans nos vies humaines sont en transformation. Sur le plan légal, des changements importants ont vu le jour au Québec en 2015, lesquels ont fait passer le statut d'au moins certains animaux, dont les animaux domestiques, de celui de bien, entre parenthèses, meuble, à celui d'être sensible. Des vétérinaires notent aussi que certains soins donnés aux animaux domestiques sont maintenant beaucoup plus populaires qu'il y a 20 ans, comme le brossage de leurs dents ou un traitement de chimiothérapie. Quelques personnes m'ont déjà mentionné que leur animal domestique est plus important que les humains qui leur sont proches, un fait qu'on observe aussi dans certaines études scientifiques. En parallèle de ces tendances, les questions touchant à l'abandon et à la négligence des animaux domestiques sont encore présentes dans nos sociétés, ce qui donne à penser qu'ils occupent, pour certaines autres personnes, une place minuscule et très peu valorisée. L'observation et à l'hétérogénéité dans la nature du lien que les gens tissent avec leur animal, je me pose la question suivante. Comment peut-on intégrer les animaux domestiques dans nos vies humaines? En d'autres mots, comment trouver un équilibre entre la place qu'occupent nos relations humaines et la place de celles que nous avons avec nos animaux, de manière que ces différentes relations soient importantes pour nous et qu'elles contribuent, chacune à leur manière, bien sûr, à notre vie globale? Plus encore, est-ce que le fait d'intégrer des animaux domestiques dans nos vies pourrait être bénéfique pour le bien-être tant humain qu'animal?
Pour notre bien et le leur.
En me basant sur les recherches menées en psychologie et celles portant sur les relations humaines-animaux, de même que sur mes propres expériences avec mes animaux, dont mon labrador noir, Elsie, et mes braques allemands, Enzo et Tasha, qui prennent beaucoup de place, je vous propose quelques pistes concrètes de solutions pour arriver à cet équilibre et à une plus grande intégration des animaux domestiques dans nos vies humaines. D'abord, on peut intégrer notre animal dans notre horaire et notre routine. En tenant compte des différents besoins de notre animal, alimentation, exercice, socialisation, stimulation, on peut ensuite planifier notre horaire en s'assurant que ceux-ci sont compatibles avec le temps qu'il est réaliste pour nous d'accorder à notre animal, vu tous les autres engagements dans notre vie. Choisir d'adopter un animal en toute connaissance de cause et en réfléchissant à la façon dont notre horaire et notre routine permettent de répondre à ses besoins précis, facilitera grandement cette intégration. D'ailleurs, avoir un animal heureux et en santé risque de rejaillir positivement sur notre bien-être en concordance avec les principes de l'approche scientifique, guillemets, une seule santé, fin des guillemets. Les animaux domestiques peuvent aussi être intégrés dans les activités de la vie. Même si ce sont surtout les chiens avec qui nous pratiquons des activités sportives, marche, course à pied, randonnée, vélo, les animaux domestiques d'autres espèces, chats, poissons, peuvent eux aussi être intégrés dans différentes activités de nos vies. On peut penser ici aux interactions et à l'entraide qu'on observe entre voisins qui s'échangent le gardiennage de leurs animaux ou encore à l'appartenance à des groupes d'intérêt sur les réseaux sociaux. Pour ma part, lorsque j'ai adopté Elsie, j'ai découvert toute une communauté de gens qui pratiquent des activités et des sports canins, sports attelés, obéissance, détection d'odeurs. Je continue d'en pratiquer plusieurs avec mes braques. Cela permet de joindre l'utile, rester en forme, à l'agréable, tisser des liens sociaux humains. D'ailleurs, les animaux domestiques peuvent aussi être intégrés dans notre réseau social. Fait encourageant, avoir des relations satisfaisantes et soutenantes avec les humains proches de nous n'exclut pas le fait d'avoir des relations satisfaisantes avec nos animaux domestiques. Certaines études ont permis de découvrir que les gens qui rapportent avoir des relations plus positives et soutenantes avec d'autres humains ont aussi tendance à avoir des relations plus positives et soutenantes avec leurs chiens. Cette compatibilité et une intégration accrue dans le réseau social humain pourraient avoir des implications positives pour l'animal qui bénéficierait alors d'un accès à davantage de soutien et de ressources. Inversement, lorsque la relation avec notre animal est particulièrement forte, mais que les liens sociaux humains sont déficitaires, une telle situation peut engendrer moins de bien-être humain. D'ailleurs, Li et Wang ont récemment découvert que plus les propriétaires de chiens considéraient leur animal comme étant plus important que leur relation humaine, parenthèse, un concept qu'ils ont nommé « substitution interpersonnelle », fin de la parenthèse, moins leur bien-être était grand. Finalement, l'intégration des animaux domestiques s'observe sur le plan financier et budgétaire. Quelle place occupent les dépenses requises pour assurer le bien-être et la santé de l'animal dans notre budget global? Ces dépenses sont-elles compatibles avec celles faites pour soi ou pour les autres humains dans la famille? La difficulté à faire entrer ces dépenses dans le budget global pourrait bien sûr avoir un effet négatif sur le bien-être des animaux s'ils ne reçoivent pas les soins requis. Mais une telle situation peut aussi générer du stress chez les propriétaires et miner leur bien-être. Ces questions semblent particulièrement pertinentes dans le contexte inflationniste actuel. Pour nous aider à planifier ces coûts, des ressources existent, parenthèse, sur le site de l'AMVQ, AMVQ, par exemple, fin de parenthèse. De manière plus large, et parce que nos relations humaines sont cruciales pour notre santé, il semble judicieux de réfléchir aux manières concrètes par lesquelles les liens avec les animaux domestiques peuvent aider à construire des ponts entre les gens plutôt que d'encourager un repli social qui risque, tôt ou tard, d'être contre-productif. Les relations humains-animaux étant souvent un miroir de différents enjeux individuels et sociaux, il s'agit de penser aux façons dont nous pouvons, individuellement et collectivement, leur faire une réelle place dans nos vies et dans nos sociétés, au bénéfice de tous. Fin de ce texte signé Catherine Amiot, titré « Quelle place donner à nos animaux dans nos vies ?» Texte publié dans Le Devoir du 1er août 2026.